Radio Okapi.
Le journal Babel Pongo Massimango.
Bonjour à tous. Rentrée parlementaire en RDC, c'est en principe aujourd'hui qu'elle a lieu dans les deux chambres. Une session qui s'annonce éminemment politique et législative avec une part importante consacrée aux enjeux électoraux. Et pour la réussite des élections libres tant attendues dans le pays, le Royaume-Uni débloque 9,2 millions de dollars américains. C'est pour soutenir le processus électoral. Son ambassadeur en RDC l'a annoncé hier à Kinshasa. La situation sécuritaire préoccupante qui prévaut à Djougou en Ituri, nous en parlons avec notre invité David Westy. Son représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC séjourne dans cette province. C'est en principe aujourd'hui, jeudi 15 mars, que les députés et sénateurs vont effectuer leur entrée parlementaire ici à Kinshasa, conformément à l'article 115 de la Constitution. Cette session s'annonce éminemment politique et législative, elle est plus axée sur les enjeux électoraux. Du point de vue législatif, l'examen et l'adoption de la loi sur la répartition des sièges est le plus attendu. Politiquement, le contrôle parlementaire avec un probable changement du gouvernement est le plus souhaité par la plupart des parlementaires. Le remplacement de quelques membres du bureau de la CENI par la Chambre basse donnera à cette session une couleur plus électoraliste. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
Conformément à l'article 115 de la Constitution du 18 février 2006, l'Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit chaque année deux sessions ordinaires. La première s'ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin, et la deuxième le 15 septembre et se clôture le 15 décembre. Pour la session qui s'ouvre ce jeudi 15 mars, les matières inscrites à l'ordre du jour ne sont pas encore connues, la conférence des présidents n'ayant pas encore eu lieu. Cependant, parmi les matières attendues au cours de cette session, la question sur les remplacements du rapporteur de la CENI sera sans doute à l'ordre du jour, tel qu'annoncé par le président de la Chambre basse du Parlement dans une lettre adressée au président de la CENI. Le calendrier électoral exige aussi le vote au cours de cette session de la loi sur la répartition des sièges. Quant au contrôle parlementaire, il va sans dire que le dernier incident qui s'est produit à la primature et qui a conduit à la démission du directeur de cabinet du Premier ministre ne manquera pas de figurer à l'ordre du jour. En entendant, des voix s'élèvent déjà pour réclamer la déchéance du Premier ministre. Quelques députés rencontrés à la veille de la rentrée parlementaire soutiennent aussi l'idée d'obtenir le départ de l'équipe Tshibala au cours de cette session.
Le Royaume-Uni débloque 9,2 millions de dollars américains pour soutenir le processus électoral en RDC. L'annonce a été faite hier par son ambassadeur en RDC à l'issue de sa rencontre avec le président de la CENI. Par cet appui, le Royaume-Uni dit montrer sa détermination de voir des élections libres pour soutenir réellement RDC ainsi que l'alternance politique dans le pays. L'ambassadeur John Burton est au micro de Jean-Pierre Ilalikoko.
Je voudrais ici annoncer que le gouvernement britannique a disponibilisé environ 9,2 millions de dollars pour appuyer la CENI à travers le Fonds commun des partenaires internationaux appelé PASEC. Le 9,2 millions de dollars, c'est un élément d'un programme plus large qui soutient le processus électoral, le processus politique ici dans le Congo et crée l'espace pour la démocratie. Et ce programme plus large, c'est un montant de 26,3 millions de dollars que nous contribuerons aussi à l'enveloppe. Aussi, nous contribuerons à l'enveloppe de 110 millions de dollars de la MONUSCO pour l'appui logistique aux élections et aussi à l'enveloppe de l'Union européenne pour les élections aussi.
Les élections s'annoncent que chaque parti cherche à nouer des alliances pour assurer notamment sa survie politique. C'est le cas de l'Union congolaise pour la liberté UCL du député national Henri Thomas Lukondo. Son président déclare que l'UCL, actuellement membre de la MP, ne pourra rejoindre une quelconque coalition politique qu'après avoir échangé avec la base sur les enjeux de la loi électorale. Henri Thomas Lukondo s'est ainsi exprimé mardi au cours d'un point de presse à Mbandaka. Suivez.
Avec la loi électorale telle qu'elle a été votée, bien que moi j'avais voté non, et que je suis allé à la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse déclarer certaines dispositions d'inconstitutionnelles, mais puisque bon, la Cour ne s'est pas encore prononcée, on peut considérer que nous sommes dans cette loi. Cette loi exige une requalification de la vie politique. Il y aura une recomposition des alliances. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire dans quel sens nous allons y aller. Je ne suis que le président, l'autorité morale de notre parti. J'aurai voulez une grande réunion avec le parti pour que nous puissions arrêter la ligne que nous allons prendre. Mais il est un fait que l'UCL, l'Union Congolaise pour la Liberté, va être dans un regroupement pour survivre politiquement. Ça c'est évident parce que, comme vous le savez, c'est pas facile maintenant avec la nouvelle loi qui exige le 1% de représentativité au niveau national. Si vous n'êtes pas nombreux ensemble, c'est évident que nous serons dans un regroupement de cela, discuter du parti pour que nous puissions définitivement lever l'option.
Henri Thomas Lokundo, Maître Papi Mbaki est détenu depuis hier soir au camp Kokolo par les services de renseignement militaire ici à Kinshasa. Son péché, c'est d'avoir, d'après un membre de sa famille qui s'est confié à Radio Okapi, c'est d'avoir dans sa voiture une banderole à l'effigie de Moïse Katumbi et une autre du PND, partie de Salomon Eskadela, financée de l'ancien gouverneur du Katanga. Je vous invite à suivre le témoignage de l'un de ses proches au téléphone par Innocent Linga.
On a trouvé dans sa voiture le banderole de Kassem Katumbi, c'est lui mon soi, et le banderole de PND, parti de président Salomon. La voiture était dans un garage il y a de cela 3 jours comme ça. On a forcé les portières et quand on a forcé, c'est comme ça qu'ils ont pu ouvrir. Et après, ils ont pris la voiture, ils sont partis avec au niveau de camp Kokolo. C'était le service de renseignement de camp Kokolo. Et il y avait le mécanicien de garage qui a appelé la dame qui se connaissait avec papy pour lui dire que non, voilà, la voiture de votre ami a été prise en otage des agents de renseignement de camp Kokolo. Et la dame a appelé papy, si tu peux venir. Et une fois arrivé, on a demandé si la voiture l'appartenait. Lui, il a accepté. On a dit, quel rapport vous avez avec Moïse Katumbi? Lui, il a dit, non, moi, je n'ai pas de relation personnelle comme ça, mais je le soutiens par conviction. Et ils ont dit, non, comment toi, tu peux être si orgueilleux comme ça, en disant clairement que non, moi, je soutiens la partie de Moïse Katumbi. Si c'est comme ça, on va te transférer au niveau de Demia, tu vas rester là-bas. Et c'est comme ça qu'on l'a retenu.
Rendons-nous en Ituri. La situation sécuritaire est préoccupante en territoire de Djougou suite aux violences qui continuent à être enregistrées dans la zone. La déclaration est du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, David Wesley. C'était à l'issue de sa visite avec le vice-premier ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense dans cette entité. Selon ses propos, la MONUSCO et le gouvernement mobilisent les hommes de troupes et les moyens logistiques pour rétablir la paix dans cette région. Il annonce aussi l'organisation d'une conférence de paix pour réduire les tensions entre les communautés ethniques locales. Nous écoutons David Wesley au micro d'Isaac Renopé.
En fait, la situation est très préoccupante. J'ai eu l'occasion de faire des visites sur le terrain pendant 2 jours, ensemble avec le gouvernement. Et c'est très préoccupant pour nous, pour le gouvernement. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire ici pour commencer un retour à la paix. Nous sommes prêts de donner un appui où il est nécessaire. On a déjà enlevé des troupes de Kisangani qui sont venues déjà ici à Bunia. Ils sont en train de déployer dans cette zone. Si ça ne suffit pas avec aussi ce qu'on voit avec l'armée congolaise et la police nationale, on peut toujours augmenter ça. Même chose ici, on va renforcer notre bureau, pas seulement sur le côté de notre force, mais sur le côté civil aussi. Donc ensemble, j'espère qu'on peut trouver une sécurisation de cette zone, mais après un dialogue fiable qui va réduire les tensions qui existent dans ce territoire. On veut vraiment attaquer ce problème avec un appui au gouvernement dans leurs efforts pour sécuriser cette zone.
David Wesley est notre invité ce matin à suivre dans la seconde partie de cette édition. Toujours à propos de Djougou, l'association Bana pour la paix en Ituri regroupe des intellectuels Emaïlen Doua Kisangani, se dit à nouveau préoccupé par le drame que vivent leurs frères et sœurs dans ce territoire. Après avoir évalué la situation sécuritaire dans leur contrée, ces intellectuels constatent que les violences perdurent. Craignant que cette crise n'embrase tout l'Ituri, ils viennent de lancer un autre message de paix à leurs frères et sœurs de l'Ituri et recommandent aussi au gouvernement de tout mettre en œuvre pour stopper les tueries. Pierre Claverne Django, président délégué de l'association Bana pour la paix en Ituri, au micro d'André Kitenge.
L'association Bana pour la paix en Ituri recommande au gouvernement central et provincial 1. D'arrêter cette hémorragie en stoppant les tueries par tous les pouvoirs dont il dispose, notamment les forces de défense et de sécurité déployées dans la région. De mettre immédiatement sur pied un cadre de concertation de tous les chefs coutumiers, les chefs de chefferie, les chefs de secteur, les chefs de groupement et de village, sous la houlette du gouverneur de province et avec la participation des forces de défense et de sécurité en vue d'arrêter des stratégies pour avant tout traquer les hors-la-loi. De mettre tout en œuvre pour assurer des conditions favorables de retour rapide des déplacés et réfugiés dans leur propre milieu d'origine. Aux intellectuels Emma Ilendou, nous les encourageons à prendre l'initiative de créer une dynamique mixte, genre Banapi, pour qu'ensemble, ils puissent former un bloc compact et opaque en vue de lutter contre les discours divisionnistes, haineux, ainsi que contre la manipulation et l'instrumentalisation. Enfin, aux notables de l'Ituri, nous leur demandons de s'impliquer activement dans la recherche des voies et moyens pour le retour rapide et la consolidation d'une paix durable.
Dialogue de pardon et cérémonie d'accueil des combattants démobilisés au sein de leur communauté, c'est autour de cette activité que se sont réunis l'ambassadrice suisse en RDC, le vice-gouverneur de la province du Sud-Kivu, des ministres et députés provinciaux ainsi que la MONUSCO à Bunyakiri en territoire de Kale au Sud-Kivu hier mercredi. Une vingtaine de combattants issus des groupes armés Raya Mutombo qui ont déposé les armes et veulent rejoindre la vie civile. Pour y parvenir et réussir leur réintégration, ils ont demandé pardon publiquement en regrettant les actes criminels commis. Et pour faciliter leur réinsertion sociale, l'ONG locale APC a bénéficié d'un financement de 450 000 dollars américains pour une période de 3 ans de la coopération suisse. Kadia Djouba a participé à cette cérémonie. Son reportage.
Il s'agit d'un long processus, a affirmé les responsables de APC, Action pour la paix et la concorde, organisation locale qui a conduit cette réconciliation avec l'appui financier du gouvernement suisse. On écoute ici les représentants des ex-combattants.
Au nom de tous les collègues ex-combattants qui ont commis des exactions avec moi et qui ont accepté de demander pardon auprès de nos parents auxquels nous avons commis les exactions qui nous ont fait égarer et nous jeter loin de notre communauté. Demander à notre gouvernement de pouvoir nous accompagner.
Pour leur part, les victimes acceptent de cohabiter avec leurs anciens bourreaux. Ils doivent mériter ce dernier, a martelé Madame Véronique, une des victimes de Bunyakiri.
Parmi nous, il y a ceux qui ont été violés, qui ont perdu leur mari, soit leurs enfants. Vous avez senti les traumas qui existent parmi nous. Ce n'était pas facile, mais à la fin, quand on voit le courage qu'ils ont eu de venir vers nous, nous croyons que c'est une thérapie aussi, puisque quand nous allons les voir fréquemment dans notre village, ça va nous aider à guérir nos plaies internes. Le maman continue à pardonner ses enfants, ce sont les enfants, et les encourager aussi à faire mieux dans l'avenir.
Siri Valt, ambassadrice de la Suisse en RDC, a fait les déplacements jusqu'à Bunyakiri. Elle a fait savoir que son gouvernement accompagne les efforts de la RDC dans le processus de démobilisation et réinsertion. Bukavu Kadia Dzuba, Radio Okapi.
Et qu'est-ce qui bloque l'implication de la jeune femme dans le processus démocratique en RDC? Que faire pour y remédier et par quel mécanisme? C'est autour de ces questions qu'a tourné le débat entre étudiants hier à l'ULPSGL, la Goma, organisé conjointement par l'ONG Ma Voisine, bénévole enfant et la Lucha. Ces échanges avaient pour but de susciter l'éveil et le goût de la jeune femme en s'intéressant au processus démocratique. C'est comme l'explique ici Justine Kalimumbalo, coordonnatrice de l'ONG Ma Voisine, au micro de Sifamagourou.
C'était dans le cadre d'abord de la célébration de la Journée mondiale de la femme. C'est-à-dire notre objectif, c'était d'informer d'abord la femme. Parce qu'on s'est dit, la femme, elle doit être informée. Il faut qu'elle connaisse que les femmes devraient encourager d'autres femmes, mais aussi que la femme devrait mériter. Elle devrait être compétente. Elle doit travailler sur ses compétences pour qu'on puisse lui faire confiance. L'orateur a présenté les statistiques d'autres pays. On a vu qu'il y a 50%, 56% je crois au Rwanda. Et qu'en RDC, nous sommes à 10%. Alors on a trouvé qu'il y a encore un problème. Prenons conscience par rapport à ce problème-là. Femmes, travailler, mériter, mais aussi nous en tant que femmes, encourageons d'autres femmes. Mais en plus de cela, nous avons dit, nous avons encouragé les femmes à être dans des réseaux. Tu es une femme, rencontre d'autres femmes, sois dans un réseau, qu'on te connaisse, qu'on connaisse qui tu es. Peut-être que ça va te permettre à ce qu'on puisse te faire confiance.
Ici à Kinshasa, le SOS de Moïse Tchiefou, père de la petite Noïla Tchiefou, fauchée par le véhicule de la société indienne Fortune Construction et dont les corps prennent depuis un mois la morgue de l'hôpital Mankolia Mangafula, a vite été entendu par la Société Nationale d'Assurance. C'était le même jour que Radio Kapi l'a lancé sur antenne. En effet, après s'être rassuré que les camions de Fortune Construction étaient assurés, la SONAS a remis mardi une enveloppe d'un acompte à la famille victime pour lui permettre d'enterrer dignement la petite Noïla Tchiefou. L'assureur congolais promet de prendre aussi en charge les frais médicaux de ses frères fracturés. Écoutez à ce sujet Freddy Bola, fondé de pouvoir à la direction de suivi et d'indemnisation à la SONAS. Il est au micro d'Innocent Linga.
L'assurance, ce n'est pas une invention de l'assurance, mais c'est un principe du droit des assurances. Les assureurs indemnisent, mais n'enterrent pas. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu accident, vous êtes assuré et que vous connaissez, il y a un cas de décès, l'assureur va indemniser la perte subie par la famille, mais ne va pas prendre en charge les frais funéraires. Les frais funéraires, c'est entre la famille de la victime et les propriétaires du véhicule. Mais dans les cas d'espèce, il y a eu des tiraillements entre la famille et l'assuré, même au niveau du parquet, il se serait passé des choses. Alors, nous avons été instruits par Madame le DG, comme le véhicule est assuré et que l'assurance était valable au moment de l'accident, qu'on trouve un mécanisme pour pouvoir aider le papa de la victime à enterrer sa fille. On a pu trouver de l'argent qu'on lui a donné, qui va lui permettre d'enterrer sa fille. Il faut préciser que nous allons indemniser Noëlla, qui est décédée, et puis ses deux frères qui sont blessés. À partir d'aujourd'hui aussi, la SONAS prend en charge déjà les soins médicaux des deux garçons, parce que le papa s'est plaint aussi qu'il n'a pas assez d'argent pour continuer à prendre en charge les soins.
Actualité Afrique Monde.
Au Sénégal, le crash d'un hélicoptère de transport de l'armée a fait 7 morts et 13 blessés hier dans la soirée. L'appareil qui reliait Ziguinchor à Dakar s'est écrasé près de Missira dans le sud du pays. D'après l'AFP, il était en mission du service social. Il avait acheminé une dépouille à Ziguinchor. Une commission d'enquête a été diligentée afin de déterminer les circonstances de l'accident. Aux États-Unis, des milliers de collégiens et des lycéens ont marché hier devant la Maison Blanche, un mois jour pour jour, après la tuerie des Parkland en Floride. Ils demandent au président Trump un renforcement de la législation sur les armes aux États-Unis.